Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique Jordan Fuentes.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Cette semaine, nous allons arpenter les vignes de la vallée du Chianti à la Californie. Nouvelle série consacrée à l'économie du vin et ses 282 millions d'hectolitres produits l'an dernier. Le marché du vin connaît un formidable essor depuis les années 2000. Plus de 100 pays commercialisent désormais vins blancs, rouges et rosés. Demain, direction la Gaule romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'heure où le vin coule à flot. Mercredi, nous suivrons, sécateurs en main, les travailleurs saisonniers de la vigne. Jeudi, enfin, c'est le business de l'œnotourisme qui nous intéressera. Mais d'abord, observons comment le vin réussit à conquérir le monde. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de la mondialisation du vin en compagnie de Jérôme Gallo, économiste, directeur de la Burgundy School of Wine and Spirits Business et coordinateur de l'ouvrage « Économie et management du vin » paru chez Pearson. Avec nous également en duplex de Bordeaux, Jean-Marie Cardebas, économiste, professeur affilié à l'INSEC Business School et auteur de « L'économie du vin » paru à la Découverte. À 14h50, on retrouvera Xavier Martinet qui présentera, comme chaque jour, son journal de l'écho.
C'est dans pas longtemps la vendange.
Oui.
Il est beau, il est sain.
Ouais.
Tu vois, hein, je passe pour une fada, mais regarde. Regarde comme il est beau, là.
Ouais, il est superbe.
Je produis deux fois moins que les autres. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la quantité. Moi, je veux un vin qui vieillit bien, regarde.
Mais ton vin 89 était super beau. Hein.
Ouais. Tu vois, ce qui m'intéresse, c'est de prouver que le Côte-du-Rhône est un vin de garde, un peu comme le Bourgogne, tu vois. En fait, j'en ai d'autres des bouteilles, hein. Mais je les garde pour les faire vieillir encore plus. Ah, mes risques et périls.
Mais jusqu'à quand?
Je sais pas. Pour l'instant, il vieillit bien et même très bien.
Jérôme Gallo et Jean-Marie Cardebas, bonjour.
Bonjour.
C'était un extrait du Conte d'automne, le dernier des contes des quatre saisons d'Éric Rohmer. Le cinéaste nous plonge dans la vie de Magali, une viticultrice de la vallée du Rhône. Alors entre 1998, date de la sortie du film, et aujourd'hui, ce qu'on peut dire pour commencer, Jérôme Gallo, c'est que le marché mondial du vin s'est complètement métamorphosé.
Effectivement, le marché s'est métamorphosé. La première chose que l'on peut en dire, c'est qu'il s'est mondialisé à la suite d'un certain nombre d'industries. D'ailleurs, à ce sujet, il est assez étonnant dans un pays comme la France de voir que on a cru que la vague de mondialisation qui a touché l'industrie textile, l'industrie sidérurgique et un certain nombre d'autres industries, quasiment toutes en fait, allait laisser l'industrie du vin, qui est un peu notre bébé, de côté. Il n'en est rien. Aujourd'hui, en 2019, comme vous l'avez rappelé, une centaine de pays produisent du vin. Et lorsque l'on se rend au plus grand salon européen du vin qui est en Allemagne, à Provine, et qu'on discute avec les 6000 différents exposants qui produisent des vins et des spiritueux, on se rend compte que nous sommes vraiment au cœur de la mondialisation.
Alors c'est une internationalisation et une croissance qui ont été particulièrement fortes peut-être ces 10 dernières années, Jean-Marie Cardebas, avec l'arrivée, la montée en puissance notamment de la Chine, mais pas seulement.
Non, la Chine bien sûr, mais on a d'abord tous les pays du Nouveau Monde qui ont émergé sur la période que vous indiquez, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, à savoir les États-Unis qui sont déjà un producteur relativement ancien de vin, puisque dès les années 60, les Californiens commencent à faire d'excellents vins. Mais on a aussi le Chili et l'Argentine en Amérique latine, on a l'Afrique du Sud, on a l'Australie et la Nouvelle-Zélande, tous ces pays constituant ce qu'on appelle le Nouveau Monde. Et c'est eux qui aujourd'hui vont être de vrais compétiteurs sur le marché international et vont commencer à venir prendre des parts de marché sur des marchés très importants comme le marché anglais, le marché américain, etc. Puis maintenant le marché chinois. Donc venir prendre des parts de marché aux pays traditionnellement producteurs, Espagne, France et Italie en tête. Une deuxième vague de mondialisation, et c'est ça qui est intéressant parce que comme l'a dit Jérôme Gallo, il y a vraiment un parallèle à faire avec d'autres secteurs industriels, c'est-à-dire qu'on a une mondialisation en plusieurs vagues. La première, c'est le le commerce des pays traditionnels. La deuxième, c'est l'émergence des pays du Nouveau Monde. Et puis, qui se poursuit aujourd'hui, alors est-ce que c'est une troisième vague? Je le crois, par les nouveaux pays producteurs, c'est-à-dire la Chine, c'est l'Inde dans une certaine mesure aussi, le Brésil, etc. Mmh. Mais la Chine s'affiche vraiment comme un concurrent redoutable dans les prochaines années.
La Chine qui possède aujourd'hui le deuxième vignoble mondial, derrière l'Espagne et juste devant la France. Comment expliquer, Jérôme Gallo, cette émergence qui est assez fulgurante de la Chine?
En lien avec ce que je disais précédemment, je crois que les Chinois font, lorsqu'il s'agit de vignes et de vin, exactement ce qu'ils ont fait sur les autres industries. Ils n'en sont pas encore à prendre le pouvoir dans cette industrie-là, comme ils ont pu le faire sur un certain nombre d'autres industries. Mais ils se sont mis sur quelque chose que leurs conditions géologiques leur permettent. C'est quelque chose qu'on oublie. Ils ont tout ce qu'il faut, et pas seulement la surface, pour produire du vin. Et par ailleurs, ils ont toujours été les consommateurs les plus fortunés en Chine, avec l'émergence de ces nouveaux millionnaires, mais de ces 400 millions de Chinois moyens, entre guillemets.
Premier consommateur au monde de vin rouge, la Chine.
Exactement. Et ben, effectivement, ils ont un marché intérieur à satisfaire.
Et c'est pour ça qu'ils ont développé un certain nombre de vignobles et de marques. On va y revenir. Mais alors Jean-Marie Cardeba le disait, les producteurs historiques sont la France, l'Italie et l'Espagne. Cette domination, comme il le disait, est menacée. Partons justement du côté de l'Espagne.
Depuis de nombreuses années, nous avons investi dans l'amélioration du vignoble. L'irrigation, plus de vignes sur treillis, le type de cépage. Des changements très importants qui nous ont permis ces dernières années d'augmenter la productivité.
Une forte augmentation de la superficie, un plus grand nombre de pieds de vigne, mais aussi plus de kilos de raisins par pied, en raison surtout des pluies que nous avons eues cet hiver, des pluies beaucoup plus importantes que la moyenne annuelle. Nous avons la quantité, nous avons la qualité, nous avons les prix. Qu'est-ce qu'il nous manque? Des structures commerciales et de marketing pour le faire savoir dans le monde. Nous avons beaucoup de monde sur la production et peu sur le commercial, ça devrait être l'inverse.
Voilà un extrait d'un reportage réalisé par l'agence France Presse en 2013. À partir de ces différents témoignages, Jean-Marie Cardeba, qu'est-ce qu'on peut dire du modèle économique de ces producteurs historiques que sont la France, l'Italie et l'Espagne?
Je crois qu'ils sont confrontés à un problème qui est d'abord un problème de changement de clientèle. Les pays producteurs historiques et les producteurs de ces pays, pardon, doivent faire face à une demande qui s'est internationalisée. Ils étaient préalablement habitués à vendre dans leurs propres frontières aux consommateurs qu'ils connaissent bien. Et ça a fondamentalement changé. Si vous prenez le cas des trois grands pays producteurs, ils étaient habitués à vendre quasiment 80% de leur production ou 80% de leurs exportations vers la Grande-Bretagne, la Belgique et l'Allemagne, c'est-à-dire de proches voisins. Et la majorité de la production, elle, était vendue à l'intérieur des frontières. Ça a changé. Et ça, c'est le problème. On consomme de moins en moins de vin dans ces trois pays producteurs, donc il faut exporter plus. Et les pays clients traditionnels ne sont plus les pays européens, c'est la Chine, ce sont les États-Unis, ce sont des pays lointains, avec des barrières aux échanges, des barrières culturelles, des barrières douanières, des barrières de taux de change, etc.
Et alors, est-ce que ça a entraîné un changement du modèle, justement, économique? Puisque en Europe, on sait que celui qui possède la vigne est souvent celui qui fait le vin, mais pas forcément celui qui le commercialise. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça, Jérôme Gallo?
Ça, alors je pensais à l'exemple bourguignon où les bourguignons exportent des vins depuis très longtemps, puisque l'école de commerce qui est là-bas a été fondée notamment par les producteurs de vins pour pouvoir exporter les vins à l'international. Donc c'est un vieux processus. Par contre, vous avez raison, aujourd'hui, Jean-Marie Cardeba vient de le dire, il y a un enjeu qui est un enjeu de pouvoir écouler une production qui ne se vend plus de la même manière, ou en tout cas sur des volumes équivalents sur les marchés domestiques à l'international. Donc ce modèle d'évolution, le modèle, en tout cas si on parle du modèle français, je pense que ce modèle est en train de changer, mais relativement lentement, comparativement aux pays du Nouveau Monde, qui eux se sont structurés dès le départ sur un modèle qui était un modèle d'économie mondialisée.
Alors ce qu'on peut dire, Jean-Marie Cardeba, c'est que le secteur est atomisé en Europe, alors qu'il est beaucoup plus concentré chez les nouveaux pays producteurs?
Oui, c'est un secteur atomisé, c'est hérité de l'histoire. Ce sont des parcelles qui sont très souvent familiales. Il y avait beaucoup d'autoconsommation autrefois. Et clairement, avec le système des AOC qui plus est, qui multiplie...
Donc les appellations d'origine contrôlée.
Oui, pardon, les appellations d'origine contrôlée qui multiplient la parcellisation de la production de vin, la complexité des étiquettes également. Il y a plus de 400 appellations en Italie, il y en a 350 en France. Donc vous imaginez la complexité pour le consommateur mondial pour s'y retrouver, et même pour le consommateur français d'ailleurs. Donc le problème, c'est qu'on a un modèle économique qui n'est pas adapté. On subit un choc auquel nous essayons de faire face... du côté de la production française avec une commercialisation un petit peu plus agressive, mais tant que la structure économique de la production de vin est ainsi, extrêmement atomisée, il sera très compliqué d'être compétitif par rapport à des industries issues du Nouveau Monde qui sont, comme leur nom l'indique, de véritables industries. Mmh. C'est-à-dire, on a des milliers d'hectares, on a des entreprises qui sont extrêmement bien structurées commercialement également, qui utilisent des marques et un système marketing tout à fait traditionnel dans le monde industriel, avec des investissements en communication importants, etc. Et le petit viticulteur français dans sa région, dans son appellation, etc., est totalement démuni parce qu'il n'a pas les moyens financiers, effectivement, pour se lancer dans de tels investissements de communication.
Vous êtes d'accord avec là, Jérôme Gallo, le modèle économique des producteurs historiques comme la France n'est plus adapté ?
Absolument. À plus forte raison lorsque l'on subit la concurrence de pays qui, Jean-Marie Cardebal le précisait, ont l'habitude d'être très efficaces et très efficients. Donc efficace, j'atteins ma cible, efficient, j'évite le gaspillage. Commercialiser n'importe quel type de produit, ce qui d'ailleurs me permet d'ajouter que, et c'est un sujet de discussion, ils ont commercialisé en fait du vin comme ils ont commercialisé des barils de lessive. C'est un élément qui est un élément probablement sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Donc ils ont été efficaces, mais avec des règles du jeu qui parfois choquent un peu, par exemple, les Français.
Mais en même temps, est-ce que en Europe, la coopération n'est pas une alternative à la concentration qu'on peut observer chez les nouveaux pays producteurs ? On a le sentiment que certains vignobles peuvent être vus comme des clusters, Jean-Marie Cardebat.
Oui, alors il y a effectivement des vignobles qui fonctionnent sous forme de cluster, mais de là à dire que la coopération peut s'apparenter à cette forme-là de cluster, je ne le crois pas.
Alors expliquez-nous peut-être le fonctionnement de cluster, en quoi cela consiste ?
Alors en fait, les clusters, vous en avez beaucoup en Californie, c'est le berceau des clusters dans le domaine du vin. C'est-à-dire que c'est un regroupement d'intérêts économiques, de producteurs, mais sur toute la filière, sur toute sa longueur, de l'amont à l'aval, et y compris en prenant en compte, comme c'est le cas au Chili aussi par exemple, des services publics qui vont promouvoir le vin à l'étranger, avec des agences de communication publique. Le gouvernement chilien par exemple est extrêmement agressif pour ouvrir les marchés étrangers, négocier des baisses de droits de douane. Les vins chiliens arrivent sans droits de douane en Chine, sans droits de douane en Corée, alors que l'Europe est encore en train d'essayer d'obtenir des réductions de droits de douane en Chine, a enfin obtenu en Corée des réductions de droits de douane, etc. Donc on est vraiment sur des organisations extrêmement efficaces et sur une coopération extrêmement efficace. Lorsqu'on parle de coopération en France, c'est simplement des petits producteurs qui vendent leurs raisins à une coopérative. Et cette coopérative, généralement, va revendre ses raisins, non pas en créant des marques, ça existe bien sûr, mais la plupart du temps, ça va être revendu à des négociants, à des grands marchands, à des centrales d'achat de grandes surfaces, etc. Donc on est à des années-lumière des systèmes de clusters que l'on peut trouver dans le Nouveau Monde.
Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, Jérôme Gallo, c'est que le vin est exporté sous forme de bouteilles, mais on exporte aussi le produit brut nécessaire à la fabrication du vin, le moût de raisin et les grains.
Oui, alors je ne suis pas sûr que la France soit le pays le plus important sur l'exportation de ce type de moût. Nos amis espagnols, dont vous parliez tout à l'heure, ont pénétré un certain nombre de marchés avec leur production importante et qualitative, comme le précisait tout à l'heure notre ami espagnol, notamment dans le sud de la France. Ce qui a valu d'ailleurs assez récemment quelques scandales parce que, a priori, la traçabilité n'était pas aussi parfaite que ce qui semblait. Je pense que sur la France, je parle sous le contrôle de Jean-Marie Cardebat, qui a peut-être des chiffres plus précis là-dessus, je pense que la grande majorité de nos vins sont quand même exportés sous forme de bouteille.
Jean-Marie Cardebat.
Absolument, absolument. Le champion absolu de l'exportation de vin en vrac, donc en grand conteneur, c'est l'Espagne. Ils le font à un prix très bas et ça explique ce que disait tout à l'heure le producteur espagnol. C'est-à-dire que l'Espagne produit énormément mais valorise très peu ses produits. En France, on a au moins la chance de valoriser nos produits et d'exporter la bouteille, donc de capter l'essentiel de la valeur ajoutée.
Vous disiez, Jean-Marie Cardebat, que la demande en Europe avait tendance à stagner, voire à diminuer. C'est à partir du milieu de la décennie 2000 qu'on a commencé à consommer plus de vin en dehors de l'Europe qu'en Europe.
Non, ça fait très longtemps que la consommation baisse en Europe. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la consommation baisse en tendance. Aujourd'hui, on consomme plus de vin aux États-Unis qu'en France. Effectivement, ça s'est fait au début des années 2010, ce basculement, par exemple. Mais la consommation s'effondre dans la plupart des grands pays producteurs de vin. Mais d'un autre côté, et c'est ça qui est un détail finalement assez amusant, dans les grands pays producteurs de bière, par exemple, la consommation de vin augmente très fortement au détriment de la consommation de bière. Et donc on a ainsi des courbes qui se croisent où ceux qui consommaient de la bière se mettent à consommer du vin et inversement, si vous regardez l'Espagne, c'est vraiment frappant, on consomme beaucoup, beaucoup plus de bière aujourd'hui que naguère et beaucoup moins de vin. Donc on a des croisements de courbes, ce sont des grands changements sociologiques, l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin, donc voilà, on se met à consommer ce qu'on ne produit pas finalement et on se retrouve dans des situations où le producteur doit aller toucher ses nouveaux consommateurs et c'est ça qui est compliqué pour des petites entreprises telles qu'on les a en France avec le modèle français.
Des nouveaux consommateurs et des nouveaux marchés qui ont un potentiel de croissance énorme et il faut effectivement aller les chercher mais alors pour cela il faut aussi chercher à protéger ses vins, à valoriser son terroir puisqu'on sait que le facteur culturel joue énormément dans la consommation de vin. Comment est-ce que l'Europe a cherché à protéger ces vins à travers notamment ce qu'on appelle les AOP, les appellations d'origine protégée, Jérôme Gallo?
Et en fait, vous venez de donner la réponse. Elle a essayé de les protéger en fait en structurant avec des cahiers des charges extrêmement précis la production et les différents appelons ça comme ça les différents segments de marché potentiels. Donc en fait, là, c'est l'offre. Ce qui est assez intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'en fait, on est passé d'un système. Enfin, initialement, le système était un système qui était structuré du côté de l'offre, avec des producteurs qui finalement n'avaient qu'à le terme est peut-être un petit peu fort, mais n'avaient qu'à pousser leur vin à la fois sur le marché domestique et sur les marchés mondiaux à un système où finalement la structuration est une structuration et c'est pour ça que les pays du Nouveau Monde tirent très bien leur épingle du jeu, une structuration par la demande. Je crois que c'est un élément qui est un élément important. Ce qui fait bien qu'aujourd'hui, cette structuration fine, Jean-Marie Cardebat le précisait, que les Italiens ont se sont inspirés du système des AOC aujourd'hui AOP française, est un système qui est devenu assez complexe pour le consommateurs à 10 000 km d'ici.
Et selon certains, cette réglementation européenne réduirait la diversité des cépages.
Quand il a fallu classer les cépages en 1958, c'est moi le fonctionnaire qui, à Paris, a aidé les fonctionnaires de Paris pour les cépages, parce qu'eux, ils ne savaient pas qui était noir, qui était blanc. Toute la journée, on a discuté sur les cépages un par un. Et il y avait le président des hybrideurs, Saint-Villard, avec ses avocats, pour discuter plan par plan. Il voulait surtout classer ses cépages et pas ceux de ses concurrents. On a classé les cépages d'abord pour la France et pour l'Europe. Vous n'avez pas le droit de cultiver ce que vous voulez. C'est la liberté tenue. La vraie liberté, c'était avant 1950, chacun plantait ce que voulait, on le foutait la paix. Depuis, on est dans l'administration, dans les jugements, tout le bordel à Bruxelles, c'est Bruxelles qui commande. Nous, la France, on suit derrière.
Voilà, Pierre Gallet, professeur de viticulture, extrait du documentaire Vitis Prohibita qui sort le 6 novembre prochain. Un commentaire, Jean-Marie Cardebat, sur les propos de Pierre Gallet?
Alors, c'est très vertement dit, mais il y a évidemment du vrai dans ce qui est dit. On a des réglementations qui parfois frisent à l'absurde, quand on sait qu'on doit s'adapter au règlement, au dérèglement climatique, pardon, et notamment au réchauffement. On se retrouve avec des cépages qui ont du mal par rapport au réchauffement climatique, mais on est pris dans cette réglementation qui nous dit on ne peut cultiver que tel cépage. Vous voyez, là, pour s'adapter, par exemple, dans la région de Bordeaux, on admet maintenant 5% de nouveaux cépages dans la production du vin. Mais enfin, ça va dans le bon sens, mais c'est très timide, si vous voulez. Donc, on doit indiquer des millésimes. On peut pas utiliser le raisin ou le vin qu'on a fait le millésime précédent pour le nouveau millésime, ou alors dans une certaine mesure très limitée et très contrôlée là aussi. On a des contraintes sur les cépages. À côté de ça, on n'a pas de véritable marché, par exemple des marchés à terme, comme on a sur les autres marchés agricoles, qui permettraient de se protéger contre ces fameux risques climatiques, de mieux lisser ce risque. Parce que ce n'est pas dans les habitudes, parce que ce n'est pas dans les réglementations. Et donc, on se retrouve quand même dans des situations où on se prive d'une liberté dont les nouveaux pays producteurs ne se privent absolument pas. Ils ont des marques, ils mettent les cépages qu'ils veulent, ils mettent les indications de millésime ou pas, etc., etc. Je pense qu'il faudrait sortir de réflexes de gestion de la filière qui sont un petit peu trop conservateurs aujourd'hui et aller vers une gestion de la filière qui se pose les vraies questions. Est-ce que le consommateur asiatique aujourd'hui a besoin d'avoir un millésime systématiquement sur une bouteille? Est-ce qu'il a besoin d'avoir forcément du Cabernet et du Merlot dans du Bordeaux? C'est ça les vraies questions.
Une gestion de la filière trop conservatrice, on est d'accord avec ça, Jérôme Gallo? Effectivement, cet enjeu de lisibilité de l'étiquetage est essentiel à l'heure où certains pays comme l'Australie ou les États-Unis réussissent à développer des marques très fortes.
Alors, on rebond avec ce que disait l'éminent professeur de viticulture. Heureusement que nous n'avons pas ajouté à la complexité de nos étiquettes une complexité en plus sur des cépages qui auraient été des cépages un petit peu exotiques, alors qu'on nous reproche déjà, je dirais, des étiquettes trop fournies ou trop complexes. Donc là-dessus, sur le fait que les cahiers des charges aient amené, je le laisse libre de ce qu'il a dit, mais est amené à une réduction finalement des cépages que l'on pouvait utiliser. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait complexifié encore davantage un modèle qui est un modèle à l'opposé duquel se sont construites les économies viticoles des pays du Nouveau Monde, en restreignant justement les cépages utilisés et en poussant leurs vins sur les marchés internationaux à partir d'un certain nombre de grands cépages identifiés.
Et en même temps, est-ce que les États-Unis n'ont pas justement réussi à développer le secteur du vin précisément parce qu'ils se sont affranchis, Jean-Marie Cardebat, des contraintes réglementaires de l'Organisation internationale du vin, par exemple?
Oui, alors... Un des grands succès des États-Unis, c'est d'abord d'avoir eu une demande forte qui a soutenu la production californienne. Ils se sont quand même beaucoup inspirés des techniques bordelaises, et dans une certaine mesure des cépages bordelais aussi. Donc ils ont été chercher peut-être ce qu'il y avait de mieux en Europe, mais tout en gardant une grande liberté. Donc effectivement, ils ont été très pragmatiques, comme souvent, et c'est le cas aux États-Unis, mais c'est le cas partout ailleurs. Donc on va quand même faire une certaine convergence dans ces modèles, parce que de plus en plus, on s'aperçoit que le consommateur veut, en tout cas dans les pays anglo-saxons, en Europe, peut-être un peu moins en Asie, mais dans les premiers pays cités, le consommateur quand même recherche un certain lien avec le local. Il recherche quelque chose qu'il connaît, il recherche à connaître le producteur, à pouvoir l'identifier. Et on se rend compte quand même que les Américains sont en train de remettre au goût du jour leur fameuse, ce qui ressemble à des appellations, si vous voulez, locales. Et on a quand même de plus en plus ce lien à une région. Donc, il y a une certaine convergence. Donc, il faut pas être trop manichéen dans ce débat, effectivement, parce que la demande réclame de plus en plus, le consommateur, si vous préférez, va réclamer de plus en plus un lien à un terroir. Et je crois que cette notion, elle est en train de revenir en puissance.
Ça pose
donc,
une
des
vraie
grandes
question.
Marques,
oui. Oui. Jean-Marie Cardebat, ça pose
identifié à des terroirs.
Ça pose une vraie question qui est celle de jusqu'à quel point on peut s'adapter à une demande qui, pour justement développer son industrie. Écoutons le critique gastronomique Périgaud Légas sur France Culture.
Les dégustateurs français se contentent de la forme que peut avoir la basilique de Vézelay ou le Mont-Saint-Michel ou Notre-Dame. On ne redessine pas ni une œuvre de peinture, une œuvre musicale. On ne redéfinit pas la symphonie fantastique de Berlioz. On la laisse telle qu'elle est. Et quand on a des châteaux bordelais et des grands crus bourguignons, on les laisse telles qu'elles sont, puisque l'appellation d'origine, c'est restituer un vin dans ses paramètres géographiques, climatiques et culturels. Donc au contraire, on se réjouit que chaque année, le vin ait cette gueule-là, cet aspect. Et l'Américain arrive et dit, mais moi, ça ne me convient pas. Et donc, c'est un journaliste américain qui est porteur du marché américain. C'est lui le prescripteur. Aux États-Unis, il est très connu. Et quand il arrive en France, il dit, moi, je peux vous ouvrir le marché du gros Texan avec son chapeau et son cigare qui va commander 10, 15 ou 20 caisses de vin qui sont à 2, 3, 4, 5 000 euros la bouteille. Mais il faut quand même que le vin corresponde un petit peu plus au goût du marché américain. Et les œnologues vont apprendre à faire des vins qui ressemblent à ça, qui ne sont plus des vins français.
Les vins français se sont de plus en plus adaptés à la demande américaine et c'est aussi ce qui explique leur succès aux États-Unis, Jérôme Gallo.
Je n'en suis pas sûr. Sur ces sujets, puisqu'on parlait à l'instant de terroir, j'observe une chose intéressante, c'est que le terroir, qui vient d'être défini tout à l'heure, est un avantage concurrentiel par définition inimitable. Voilà. Prenez simplement l'exemple de l'endroit de la terre dans lequel le vin est produit. Par définition, on ne peut pas produire aux États-Unis le type de vin que l'on va produire en France ou en Nouvelle-Zélande. J'en veux pour preuve l'exemple du Pinot Noir, par exemple, qui est cher à la Bourgogne. Les Néo-Zélandais, ainsi que les Américains d'ailleurs, produisent, et il y a des concours internationaux, produisent leur propre Pinot Noir qui, gustativement, sans être un très grand expert, se reconnaissent assez facilement d'un Pinot Noir produit en Bourgogne. Donc, sur cette idée-là, je crois que le succès des vins français, en tout cas, une des raisons principales pour lesquelles le vin français est toujours très très bien coté aux États-Unis, mais pas seulement, il se trouve que les États-Unis sont effectivement le premier marché de consommation aujourd'hui, c'est les aspects culturels associés au fait que nous sommes effectivement un pays, un grand pays historique qui a été pendant des décennies au moins le premier producteur mondial, avec une belle diversité. Donc nos détracteurs auraient appelé quelque chose de très compliqué, ou un portefeuille feuilles, en tout cas de produits très 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 compliqués, mais une belle diversité de produits, parce que nous avons une belle diversité de régions qui produisent des vins qui n'ont jamais été aussi bons. Donc je pense que le succès des vins sur le marché américain, des vins français sur le marché américain ou sur les autres marchés mondiaux, sont d'abord et surtout dus au prestige de la France lorsqu'on parle de vin ou de vin effervescent, c'est-à-dire de champagne.
Jean-Marie Cardeba, vous partagez cette vision ?
Oui, enfin, je crois que Jérôme Gallo, en tout cas, vraiment raison de souligner que ce débat ne doit pas être présenté sous forme trop manichéenne. Bien sûr, il y a des viticulteurs qui se sont mis à faire des vins un petit peu plus chargés en alcool, qui plaisaient peut-être un petit peu plus au goût américain, parce que le fameux prescripteur Robert Parker, ça lui plaisait, et c'est vrai qu'il a fait vendre ses vins aux États-Unis. Donc ça, on ne peut pas le nier, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose que les viticulteurs n'aiment pas forcément qu'on rappelle, mais ça existe. En revanche, de là à dire que le vin n'a plus d'identité, n'a plus d'âme, ce serait complètement abusif. Et comme je disais tout à l'heure, je crois qu'il y a un certain retour au terroir, y compris dans les pays du Nouveau Monde. Et j'en veux pour exemple les bières artisanales. J'aime bien faire ce parallèle parce que dans les bières artisanales, il y a un boom extraordinaire des micro-brasseries aux États-Unis et elles ont toutes une origine qui est extrêmement bien localisée. Vous ferez pas boire une bière de Manhattan à quelqu'un qui habite à Brooklyn, par exemple. Donc, je crois que cette notion de terroir, elle revient plutôt en force. En revanche, il y a juste, excusez-moi une seconde, il y a juste cette question du à quel consommateur on s'adresse exactement. Je pense que il faut pas tout mélanger lorsqu'on parle du marché du vin. Il y a différents segments. Je crois que ce qui manque à un pays comme le nôtre, par exemple, ce sont des marques fortes, peut-être effectivement assez standardisées, peut-être avec un goût relativement mondialisé qui ferait bondir certains œnologues ou grands amateurs pointus, mais on aurait besoin de ces marques fortes avec un goût agréable mais non typique, si vous voulez, d'une région en particulier et qu'on pourrait écouler partout dans le monde. C'est ça qui manque à la
France. Une production industrielle
en fait.
Et une production élitiste en même temps.
Exactement, exactement. Mmh. C'est un marché extrêmement différencié dans lequel il y a de nombreux segments et il nous manque clairement une offre adaptée au segment bas moyen de gamme.
Et pourtant, est-ce que ce serait pas un petit peu réducteur, Jérôme Gallo, d'estimer que dans les pays dits du Nouveau Monde, on trouve essentiellement une production industrielle ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une montée en qualité des vins ?
Ah exactement, il y a une montée en qualité, je le disais tout à l'heure, pour les vins français aussi, il faut pouvoir le préciser, les différents types de vins français fabriqués sur le territoire, produits sur le territoire n'ont jamais été aussi qualitatifs, et c'est le cas pour nos amis producteurs aux États-Unis, c'est le cas aussi pour nos amis australiens, pour nos amis néo-zélandais, pour nos amis sud-africains, et pour nos amis allemands. On oublie souvent les Allemands qui produisent, qui sont parmi les premiers producteurs mondiaux en termes de volume. Donc effectivement, vous parlez d'industrie et puis ensuite de choses un petit peu plus artisanales, mais regardez le poids que pèse la France. Nous produisons à peu près 50 millions d'hectolitres sur une production, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de 282. Nous sommes une industrie. La question, comme le précisait tout à l'heure Jean-Marie Cardebas, et je pense que c'est un élément extrêmement important, n'est pas tant dans la production. On peut parfaitement continuer à produire de manière tout aussi qualitative la grande diversité et la grande qualité de nos vins. La problématique est sur la manière dont on va le commercialiser, et avant de le commercialiser, dont on va le marketer. Et de ce point de vue-là, je crois que des instances de régulation qui n'ont pas encore été citées, ce sont les interprofessions. Et peut-être que c'est là-dessus que, je pense, notre pays pourrait aller un petit peu plus loin dans la collaboration entre les différents producteurs.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Roquigny.
Old red wine, well past its prime, may have to finish it after crossing the line. Dusty old wine, 2,000 a time, an inch of black mud always left behind.
Red Wine des Who sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Nous poursuivons notre discussion sous la treille en compagnie des économistes Jérôme Gallo et Jean-Marie Cardebas. Le vin à la conquête du monde, c'est notre sujet aujourd'hui.
As we look forward to the future, we have to think a little bit about...
Lorsque nous envisageons le futur, il faut se demander de quoi sera-t-il fait du point de vue de la production de vin et du développement de la vigne. Nous savons que les 50 dernières années ont bénéficié à la qualité du vin à l'échelle mondiale, avec quelques variations climatiques, mais nos projections dans le futur ont tendance à montrer qu'il y aura des impacts bénéfiques, de la même façon qu'il y aura très probablement des impacts destructeurs. Je crois personnellement que l'Oregon a beaucoup à gagner du changement climatique. Le réchauffement de nos climats tempérés va très probablement permettre d'augmenter la viabilité de certaines variétés, mais nous pourrons aussi potentiellement en développer de nouvelles. Cependant, nos étés chauds et secs ne feront que devenir plus chauds et plus secs encore, générant ainsi un stress hydrique et donc un véritable problème au niveau de l'exploitation des ressources d'eau.
Gregory Jones, professeur d'œnologie, il est le premier chercheur à avoir formulé l'idée d'un réchauffement climatique qui serait bénéfique à certaines vignes. Le dérèglement climatique, Jérôme Gallo, vous partagez cette vision, ce dérèglement climatique va faire des gagnants et des perdants?
Certainement. J'observe une chose, puisqu'on parle de l'Oregon et que je vous parlais tout à l'heure des pinots noirs produits en Oregon. J'observe que le pinot noir, lorsque l'on interroge un certain nombre de spécialistes, qui est donc produit notamment en Bourgogne, ne devrait pas plus l'être dans certains endroits de la Bourgogne, eu égard au réchauffement climatique. Dit les choses autrement, il semblerait que les caractéristiques du pinot noir, il y a des grands spécialistes en Suisse sur ces sujets-là, le pinot noir n'est pas censé supporter les températures, y compris celles qu'on a aujourd'hui en 2019. Or, il faut observer que il est toujours cultivé avec grand talent pour produire les merveilleux vins de Bourgogne. Et il y a un sujet qui est un sujet, à mon sens, qui n'est pas suffisamment développé, c'est le sujet de l'adaptation de la vigne ou de certains cépages à ce fameux à ce réchauffement climatique, qui est un autre enjeu.
Alors il y a l'adaptation et puis il y a effectivement ceux qui pourraient en profiter. On a beaucoup dit que le changement climatique pourrait profiter au Royaume-Uni, Jean-Marie Cardeba.
Oui, le Royaume-Uni, d'autres pays aussi, mais le Royaume-Uni, typiquement, par rapport aux vins pétillants et à ce qui pourrait concurrencer demain les champagnes, a clairement un terroir très intéressant et maintenant a des températures qui lui permettent de cultiver de façon à peu près régulière les cépages qui sont utilisés dans ce type de vin. Donc, effectivement, le Royaume-Uni, je crois que au-delà du climat dont on parle beaucoup et qui va bousculer la hiérarchie mondiale, il y a peut-être un autre élément qui a toujours été extrêmement important, c'est que la production de vin progresse d'abord là où il y a une forte demande. Et c'est pas un hasard si l'Allemagne, que citait Jérôme Gallo, le Royaume-Uni qui va pouvoir se mettre à cultiver de la vigne, qui a déjà commencé d'ailleurs.
Un chiffre simplement, Jean-Marie Cardeba, entre 2004 et 2013, le vignoble anglais a progressé de 148%. Donc on a vraiment une explosion de la production.
Absolument. Et si vous regardez pour la Chine, c'est encore des chiffres plus impressionnants. Donc là où il y a de la demande, il y a une forte progression de l'offre, justement parce qu'il y a aussi une demande de vins locaux. Donc pour faire le pont par rapport à ce qu'on disait sur le terroir, il y a encore, malgré tout, une belle vie pour la notion de terroir et de localisation d'un vin. Donc la demande plus le climat, oui, ça fait des facteurs qui sont vraiment pas favorables aux pays traditionnels. Je pense notamment à la France, peut-être encore plus à l'Espagne qui va être touchée par le climat, et à certaines zones d'Italie, si on regarde les vins du sud, de l'Italie notamment, ce sont des terroirs qui vont être très très bousculés.
On peut penser donc au Portugal et à la Californie, en effet, voilà, et la question que je voulais poser, c'est comment est-ce que ces régions se préparent à ces nouvelles hausses de température à venir ?
Il y a beaucoup de techniques en fait, et c'est ce qui peut rendre relativement optimiste malgré tout. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien développer des techniques de couverture de la vigne avec des bâches qui vont automatiquement s'étendre au-dessus de la vigne pour la protéger des rayons du soleil. Vous pouvez aller planter de la vigne plus en altitude lorsque vous êtes sur des piémonts montagneux, etc. C'est ce que font les Argentins, ce que font les Espagnols de plus en plus. L'altitude moyenne de la viticulture est en train de grimper pour aller chercher un peu de fraîcheur. Et vous pouvez, et c'est quand même la piste qui est privilégiée aujourd'hui en termes de viticulture, utiliser des cépages résistants. Alors, ça commence, on sait qu'on a des cépages résistants qui vont se contenter de très peu d'eau. Néanmoins, la question de la typicité justement attachée à une région, est-ce que le vin aura toujours le même goût ? Ça, c'est la grande question. Et pour l'instant, c'est pas encore acquis.
Et alors, il faut se préparer d'autant plus, Jérôme Gallo, que les conséquences du réchauffement climatique sur la production de vin sont déjà là. On a déjà pu les observer dans un certain nombre de pays.
Effectivement, cette année à nouveau, pour la région chère à mon cœur, la Bourgogne, la production de raisins est très très bonne. Par contre, il y a très peu de jus, parce que effectivement, il y a eu une alternance de soleil et de pluie qui n'a pas permis d'avoir des raisins gorgés d'eau. Donc, sur ces sujets-là, tout à l'heure, vous disiez la viticulture anglaise, ou en tout cas la production en Angleterre, a bondi de 148%. N'oublions pas que l'on part d'une production qui est toute petite. Donc, un gros chiffre sur une petite production, ça fait toujours une petite production, et je crois que nous avons quand même quelques belles décennies avant de voir arriver en masse les vins de nos amis effervescents, en l'occurrence de nos amis anglais.
Mais vous êtes optimiste sur la capacité des producteurs français à se préparer à justement les conséquences du réchauffement climatique ?
Oui, parce que je suis d'un naturel optimiste, tout d'abord. D'autre part, parce que je fais confiance à l'intelligence de ceux et de celles qui produisent des vins depuis, pour certains, historiquement, plusieurs siècles.
Alors, est-ce qu'il y a des cas, Jean-Marie Cardeba, où le dérèglement climatique entraîne véritablement une amélioration de la qualité du vin ? C'est ce qu'on appelle, je crois, l'équation bordelaise ?
Oui, effectivement, si vous regardez les derniers millésimes bordelais, enfin sur quand même une période assez longue depuis l'an 2000, vous constatez que vous avez une recrudescence des millésimes tout à fait exceptionnelle. Donc c'est 2000, 2005, 2009, 2010 et d'autres encore plus près de nous. Donc le réchauffement climatique a été plutôt positif, c'est ce que disait Denis Dubourdieu, un célèbre œnologue français, et il disait arrêtez avec le réchauffement climatique parce que ça améliore la qualité du vin. Pour l'instant, on a des raisins plus concentrés, on a franchement des vins qui se sont améliorés. Donc,
mais dans de nombreux cas, ça entraîne une baisse de la production. Amélioration de la qualité et baisse de la production en même temps, c'est ça qu'on peut dire ?
Mais pas forcément, parce que vous avez quand même des très belles productions aussi. Ce qui a beaucoup affecté la production ces dernières années, où on a eu de très beaux millésimes d'ailleurs, c'est pas tellement le réchauffement climatique, c'est plutôt ce qu'on va appeler le dérèglement climatique, c'est-à-dire des grêles très fortes et puis un gel tardif, comme il y a eu en 2017 par exemple. Donc c'est surtout là qu'une partie de la production est détruite, plus qu'avec le réchauffement lui-même.
Ce sont les alternances de gel printanier et de canicule estivale qui entraînent des diminutions de la production. Jérôme Gallo.
Oui, Jean-Marie Cardebas dit tout à fait justement ce que sont les problèmes récurrents malheureusement et récents en ce qui concerne le vignoble. Il y a un élément quand même qui est un élément qui doit nous interpeller au regard de l'évolution de la demande mondiale, c'est les teneurs en alcool. Le réchauffement, si on revient sur le réchauffement impacte dans le sud-ouest, mais pas seulement, des teneurs en alcool plus élevées. Il n'est pas rare de voir aujourd'hui de très très belles, de très beaux flacons bordelais notamment à des niveaux d'alcool à 14 degrés, 14 degrés et demi. C'est peut-être ça qui, à un moment donné, va poser problème pour des consommateurs qui sont des consommateurs qui font la chasse au gras et au sucre.
Oui, on peut se poser la question effectivement de aussi la nécessité de répondre à la demande mondiale en faisant des vins moins sucrés, Jean-Marie Cardebas.
Oui, la demande mondiale pourrait évoluer vers des vins non sucrés, même si ça serait quand même prendre le contre-pied de ces dernières années où justement c'est plus le sucre qui a quand même séduit les nouveaux consommateurs. Donc je suis pas certain que ce soit le pire des problèmes. Je crois que la demande mondiale va aussi demander des vins qui soient beaucoup moins dans lesquels il y a beaucoup moins d'intrants chimiques. Je pense que ce sera plus ça le problème que le taux d'alcool. Donc on revient à la question des pesticides, mais aussi du soufre, qui risque d'être des barrières à certains marchés assez rapidement. Je pense que c'est, de mon point de vue, là qu'il y a vraiment une urgence à améliorer la production.
Alors justement, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre à l'avenir ? Est-ce qu'il faut redouter ou une place toujours plus importante des nouveaux producteurs de vin ? Je dis redouter pour nous depuis la France, depuis les producteurs historiques européens, puisque ce qu'on constate à l'heure actuelle, et c'est peut-être lié à la très forte hausse de la demande, mais le vieux monde, donc Italie, France, Espagne, ne perd pas encore beaucoup de parts de marché, Jérôme Gallo.
Non, effectivement, juste un point de complément par rapport à ce que disait Jean-Marie Cardebas sur les tendances et les problématiques de sucre ou d'alcool. Ce sont les lobbies internationaux et notamment le lobby de l'OMS. Je crois qu'il est difficile aujourd'hui de faire abstraction de ce qui se dit, de ce qui s'échange au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, lié notamment aux problématiques de santé liées à la consommation d'alcool. Et je dis bien la consommation d'alcool. C'est quelque chose qui aujourd'hui interpelle et inquiète beaucoup les instances de réglementation, qu'elles soient à Bruxelles ou qu'elles soient à l'international. Donc c'est une dimension qui me paraît quand même complémentaire de celle liée, et Jean-Marie Cardebas a parfaitement raison, à ce qui relève d'une catégorie générale qu'on va appeler la responsabilité sociétale des entreprises ou en tout cas les problématiques de développement durable pour la filière vitivinicole.
Et sur la question des parts de marché, c'est sur les vins bas et moyenne gamme que l'ancien monde devrait perdre justement ses parts de marché ?
C'est difficile à dire parce que si vous prenez l'exemple de la Chine, dont nous avons parlé déjà depuis tout à l'heure, avec l'augmentation du niveau de vie, se fait aussi une demande de produits plus qualitatifs. Appelons ça, nos amis marketeurs appellent ça la premiumisation. Et on observe déjà aujourd'hui sur le marché chinois une augmentation de parts de marché sur un certain nombre de segments. Alors c'est assez d'ailleurs étonnant parce que effectivement on a cette tendance sur la premiumisation, mais on a aussi, avec le développement économique, de plus en plus de consommateurs qui boivent du vin et qui, par définition, attaquent, si vous me passez l'expression, le marché par les entrées milieu de gamme. Mmh. De ce point de vue-là, les vins français ont aussi leur épingle à tirer.
Jean-Marie Cardebat, les nouveaux producteurs et ceux que vous avez appelés les nouveaux producteurs sont appelés à prendre une place toujours plus importante sur ce marché mondial du vin.
Oui, c'est le sens de l'histoire. Et si vous regardez les courbes, et que si simplement vous voulez prolonger donc ces courbes depuis une vingtaine d'années, c'est très clairement ce qui devrait se passer. Alors, il ne faut pas s'attendre à un bouleversement soudain. Jérôme Gallo l'a dit tout à l'heure pour le Royaume-Uni, par exemple, et la concurrence avec le champagne. Donc, il n'y aura pas un bouleversement soudain, mais cette tendance, elle est, de mon point de vue, pas prête de s'arrêter. Ce qui est pas grave en soi, parce que si le marché mondial ne cesse de grandir, ma foi, si on a moins de parts de marché du côté des pays traditionnels, c'est pas grave. Ça veut pas dire que les ventes baisseront. Elles continueront à augmenter pour autant. Néanmoins, ce qui pourrait être plus inquiétant, c'est quand même aussi la notion de barrière aux échanges. À partir du moment où ces pays deviennent des pays producteurs importants, ils pourraient être tentés aussi de favoriser cette production locale encore plus en protégeant leur marché. On le voit pour la Chine, comme ils l'ont fait dans bien des secteurs, en se protégeant dès lors qu'ils ont été en mesure de fabriquer des substituts locaux à des productions. Donc pour le vin, ça pourrait arriver aussi.
Il faut s'attendre, comme le dit Jean-Marie Cardebat, à une forme de démondialisation du vin, avec une certaine fermeture des frontières, qui serait liée à la multiplication des barrières tarifaires et non tarifaires, comme les normes environnementales.
Le terme de démondialisation me paraît un petit peu fort. Il est sûr que les barrières à l'entrée n'ont pas cessé d'augmenter, notamment en ce qui concerne les aspects réglementaires liés aux productions biologiques. Nos amis américains d'Amérique du Nord, que ce soit les États-Unis d'ailleurs ou le Canada, qui produit aussi du vin, ne l'oublions pas, l'ont démontré ces dernières années. Je parlais tout à l'heure d'instances de régulation. Je pense que sans instances de régulation fortes et susceptibles de protéger les producteurs européens, donc au niveau de la Commission européenne, nous risquons d'avoir de plus en plus de soucis à l'avenir. Ça me paraît être une évidence.
J'aimerais vous faire entendre maintenant Hervé Garnier, qui est membre de l'association Mémoire de la Vigne. Et pour lui, l'avenir appartient aux cépages hybrides. Il s'agit d'expérimentations qui visent à éviter les pesticides tout en résistant aux maladies de la vigne.
Après avoir abandonné les hybrides d'une façon générale, les avoir quasiment diabolisés, on se rend compte aujourd'hui que probablement c'est vers ces hybrides ou d'autres hybrides probablement aussi que se tournera la viticulture dans les temps proches. Par nécessité, parce que l'obligation de traitement d'un certain nombre de cépages devient insupportable, devient de plus en plus difficile. On ne peut pas associer le vin qui est un produit plaisir à des produits dangereux pour la santé. À terme, c'est une voie sans issue. Il faut absolument que dans un temps le plus proche possible, la viticulture réussisse à échapper à ces traitements qui sont dramatiques et pour la profession, et pour les sols, et pour la santé des vignerons et des consommateurs.
Jérôme Gallo, il faut s'attendre à une demande de plus en plus forte de diversité avec le développement de ces cépages hybrides et aussi l'essor des vins bio et des vins naturels.
Oui, je pense, oui, c'est le sens de l'histoire, effectivement. En ce qui concerne les vins biologiques, je reviendrai pas sur la mode aujourd'hui des vins nature, mais en ce qui concerne les vins biologiques, il y a une vraie interrogation consistant à savoir si le vin biologique est un vin écologique. Il semblerait qu'un certain nombre d'études scientifiques démontrent que notamment les charges en cuivre des sols démontrent que le vin biologique n'est pas à 100% un vin écologique, mais en tout cas, on peut s'attendre dans les pays qui sont les pays nouvellement producteurs, si on se place sur un temps long, à ce que se développe de plus en plus ce type de vin qui correspond à la fois la demande de la génération qui est aujourd'hui la génération Z et qui correspond aussi à un besoin de plus grande diversité, d'originalité. Je mettrais en parallèle de cette problématique, je dirais, de production saine des vins, les problématiques de production des vins, de cépages, pardon, autochtones. Un certain nombre de pays, notamment la Grèce, ont réussi, qui est un gros pays producteur de vins, ont réussi à produire des cépages autochtones qui ont beaucoup de succès sur les marchés mondiaux.
L'enjeu de l'avenir du marché, c'est cette diversification. Jean-Marie Cardebat, vous ne croyez pas, vous non plus, à un mouvement d'uniformisation du vin ?
Non, je n'y crois pas. Ça serait un contresens par rapport à ce que représente le vin. Et au contraire, on s'aperçoit aujourd'hui que la hausse de la diversité dans le vin, de la différenciation, avec vraiment de plus en plus de petits producteurs, au sens noble du terme, qui font des vins de vignerons avec une véritable signature et une identité propre, c'est en train de se développer, et partout dans le monde, pas simplement en France. Donc je crois que cette diversité, elle va se poursuivre, c'est ce qui fait le charme du marché.
On le voit en Chine d'ailleurs, pendant longtemps on a beaucoup, les Chinois ont beaucoup demandé des Bordeaux, et là il y a de plus en plus de demandes de diversité en Chine.
Absolument, absolument, et même la Bourgogne se met à vendre en Chine. Bon, ça c'est un petit clin d'œil pour Jérôme Gallo, mais quoi qu'il en soit, oui, vous avez cette demande de diversité un petit peu partout, et c'est vraiment intrinsèque vraiment au marché du vin. En revanche, les hybrides sont une réponse, on l'a dit, pour le réchauffement climatique, ou pourraient être une réponse. Ils seraient sans doute une réponse également pour la question des traitements chimiques, de tous les intrants qu'il peut y avoir. Donc, je crois que c'est le sens de l'histoire, pour reprendre cette expression, de développer ces hybrides. Qu'est-ce que ça va donner en termes de typicité? Je pense qu'il y a encore du travail à faire et on n'est pas au bout de l'histoire par rapport à cela. Mais juste un point par rapport au vin biologique, il faut quand même être très réaliste par rapport à ça et très pragmatique. Le segment de marché qui augmente le plus vite aujourd'hui en France et dans le monde, c'est le segment des vins bio. Donc je crois qu'ignorer ça, ça serait extrêmement dangereux, d'une part économiquement, parce qu'on se prive du marché qui augmente le plus vite, d'une part, et ignorer ça serait d'autant plus dangereux que je pense que si quelqu'un comme, allez, au hasard, Donald Trump voulait protéger le marché du vin de son pays, ça serait très facile par rapport à ça, beaucoup plus que à travers des barrières douanières qui finalement sont relativement inefficaces. Je pense que prendre quelques normes sanitaires pour dire on veut plus de pesticides ou on veut plus de sulfites, ça serait beaucoup plus facile pour les Américains dans des climats beaucoup plus chauds, etc., de s'adapter que pour nous. Donc, il faut être extrêmement méfiant par rapport à une guerre économique autour du vin où les normes sanitaires et environnementales pourraient être infiniment plus délétères que de simples barrières douanières.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Un mot de conclusion, Jérôme Gallo, sur l'avenir de ce marché mondial du vin. Peut-être que l'enjeu pour les pays producteurs historiques, ce serait la formation et en même temps l'amélioration de la commercialisation et du marketing.
Oui, je crois qu'il faut que nous restions attachés à ce qui a fait la force de notre filière vitivinicole depuis des siècles. La formation aide effectivement. La nouvelle génération aujourd'hui vient se former, notamment dans notre école, aux techniques de marketing pour pouvoir pousser davantage leur vin sur les marchés mondiaux. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pour le reste, la dimension culturelle du vin reste et demeure extrêmement importante. Et la France, effectivement, va aussi n'est plus le premier producteur mondial aujourd'hui, mais a encore de très belles cartes à jouer dans les décennies qui viennent, eu égard à ce patrimoine culturel associé aux différents types de produits, les vins tranquilles ou le champagne.
Jean-Marie Cardeba.
Je crois qu'il faut penser le vin, le marché du vin, segment par segment. Et je pense que en France, on veut tous faire du premium, on veut tous avoir un vin vraiment qu'il soit bon, etc., etc., qu'il soit reconnu. Et je pense qu'il faut au contraire essayer d'avoir des stratégies à l'échelle des interprofessions, par exemple, comme l'a souligné Jérôme Gallo, qui soient des stratégies de marque fortes et qui vraiment mettent les moyens pour vendre des grandes quantités de vin. Parce que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, cette année encore, on va produire 43, 44 millions d'hectolitres. Il faut les écouler. Et ça, si on pense uniquement en premium, on n'y arrivera pas. Si tout le monde veut être premium, on n'y arrivera pas. Il n'y a qu'une Romanée Conti.
Donc, et pour cela, vous avez un plus grand soutien des pouvoirs publics, notamment?
Oui, mais alors le soutien, ça peut être aussi de relâcher un peu la réglementation. C'est pas demander les moyens systématiquement. Je pense que si on pouvait avoir beaucoup plus de liberté pour utiliser des vins en lissant ce qu'on va mettre dans les bouteilles sur 2 ou 3 ans, parce que vous savez qu'on est obligé d'attacher un vin à un millésime, par exemple, ce genre de choses, il y aurait beaucoup de petites réglementations à relâcher qui sont pour moi des conservatismes purs, et sans mettre 1 euro supplémentaire dans la filière, je pense qu'on pourrait faciliter la vie des producteurs, des marchands, et on pourrait leur permettre de construire ces marques fortes.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les deux. Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet pour le journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiphaine, bonjour à tous.
Ira-t-on vers une taxe carbone universelle cette semaine? Alors que s'ouvre aujourd'hui à New York le sommet de l'ONU consacré au climat, la pression augmente pour établir une fiscalité climatique efficace.
Oui, au point que déjà quelques dirigeants ont décidé de défendre leur taxe carbone à la tribune de l'ONU. Ce serait le cas du Premier ministre canadien Justin Trudeau et de l'Irlandais Leo Varadkar. Ces taxes, alors principalement sur les carburants, doivent servir à respecter les objectifs d'émissions carbone. Elles sont déjà appliquées par des pays de l'Union européenne, mais elles restent l'arlésienne, dit l'OCDE, dans la plupart des 44 pays. C'est ce qu'elle déplorait la semaine dernière. Elle les juge, je cite, trop faibles pour favoriser l'essor des solutions bas carbone. Pour l'OCDE, un prix en fait dissuasif serait au départ d'environ 30 euros la tonne. Il n'est pour l'instant supérieur que dans 4 pays, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Suisse. Alors une taxe carbone universelle, sans doute pas pour tout de suite, pas à l'ONU en tout cas, mais un effet d'entraînement est toujours possible, explique Christian Gaulier. Il est directeur de la Toulouse School of Economics et auteur récemment au PUF du « Climat après la fin du mois ».
Ce qu'on pourrait faire, c'est avoir une taxe uniforme dans l'ensemble des pays qui se mettent d'accord dans une espèce de club climatique ambitieux, avec une possibilité d'utiliser les revenus de cette taxe pour compenser les ménages les plus modestes. C'est déjà ce qui est partiellement fait en France, mais évidemment, il faut renforcer considérablement la problématique de redistribution, parce que on sait bien que ce sont les ménages les plus pauvres qui consacrent une part la plus importante de leurs ressources pour leurs dépenses d'énergie. Déjà, le seuil de 30 euros la tonne de CO2, si on parvenait à la franchir en Europe, ça changerait assez radicalement la donne sur la manière dont on produit l'électricité dans notre Union. Moi, je suis plutôt en faveur d'un prix du CO2, comme la majorité de mes collègues économistes, d'ailleurs autour de 50 euros la tonne. Et ça serait une taxe qui aurait des effets importants sur les comportements des ménages et des entreprises, avec l'idée que pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 que l'Europe et la France en particulier se sont mis, réduction de 40% des émissions en 2030 et neutralité carbone en 2050, il faudrait faire monter ce prix du carbone graduellement jusqu'à 200, 300, 400 euros la tonne de CO2.
En France, Xavier, un rapport de la Cour des comptes recommandait aussi la semaine dernière de réinstaurer une taxe carbone.
Oui, rapport du Conseil des prélèvements obligatoires qui faisait grosso modo les mêmes recommandations que l'OCDE. Suppression des exemptions au secteur routier et au bâtiment, taxer plus fort les secteurs qui polluent le plus et mettre en place des compensations là aussi pour les ménages les plus lésés. Alors ce n'est pas gagné en Union européenne. L'Allemagne qui vient de présenter son plan climat à 100 milliards d'euros ne prévoit pas de taxe carbone. À suivre à l'ONU cette semaine en France avec la présentation du budget vendredi.
On passe au bref avec le prix du carbone toujours, cet accord inédit entre la Norvège et le Gabon.
Et oui, c'est une récompense, a dit Lee White, qui est le ministre des Forêts du Gabon, où 80% de la production de CO2 est liée à l'exploitation forestière. Ce biologiste né britannique est un des artisans de cet accord inédit. Inédit puisqu'il prévoit que la Norvège récompense en effet le Gabon, puisqu'elle lui paiera un dédommagement pour réduire la déforestation. Dédommagement à un prix indexé sur une quantité de carbone non émise et donc sauvée. Prix fixé à 10 dollars la tonne, moins que le prix OCDE donc.
Aux États-Unis, un accord commercial se rapproche et un autre s'éloigne.
Pas besoin d'un accord avec la Chine avant l'élection américaine, a déclaré samedi le président américain alors qu'il recevait le premier ministre australien. Donald Trump réaffirmant qu'il voulait, je cite, un accord complet, c'est-à-dire avec la propriété intellectuelle, et voulant aussi rassurer sur la santé de l'économie américaine. Ceci juste après de nouvelles discussions entre Washington et Pékin sème évidemment le trouble, alors que sur un autre plan, nouvelle rumeur d'un accord commercial prochain avec le Royaume-Uni. Belle victoire pour nous et Trump tient également à en parler avec les États-Unis, a dit aujourd'hui le Sun.
Et pour finir, on revient en France. Deux compagnies aériennes désormais en sursis et un ballet de repreneurs.
Et oui, c'est Aigle Azur, donc tourné vers l'Algérie, et XL Airways, spécialisé dans les vols vers les Antilles et la Réunion, qui vient de se mettre en redressement judiciaire. Pour la première, Aigle Azur, le tribunal de commerce d'Evry examine les quatre offres encore valides, sachant qu'aucune ne prévoit de reprendre la totalité des 1150 emplois et 11 avions d'Aigle Azur en faillite. Deux prévoient un refinancement d'environ 30 millions d'euros. Ce serait 35 millions pour sauver environ 600 emplois dont a besoin, selon son patron XL Airways, dont la demande est examinée à Bobigny aujourd'hui. Il aurait sollicité, lui, l'aide d'Air France qui avait retiré son offre pour Aigle Azur.
Dust them off, put them back up on the shelf. Just a little baby girl.
Textile de Portugal The Man. Merci beaucoup Jérôme Gallo et Jean-Marie Cardebas de nous avoir fait voyager dans les vignes du monde, de la Géorgie au Xinjiang en passant par la Californie. Merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Bordeaux qui ont permis ce duplex. Demain, on fait un saut dans le temps pour assister au boom du vin au temps de l'Empire romain. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.